française. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète, les carottes sont cuites.
Je répète.
Le loup est dans la bergerie, je répète, le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète, le groove perdu, va commencer,
Salut à vous et bienvenue sur votre radio locale si vous nous rejoignez à la recherche du groove perdu session numéro 379, une émission à géométrie variable produite depuis 2011, diffusion radiophonique en 2021 sur les ondes de RDIWA, Radio Dragon et Radio Saint-Afrique. Cette semaine, 9e épisode du cycle d'émissions sur l'histoire du hip-hop en France. Une histoire de ce mouvement et plus particulièrement de l'une de ses disciplines, le rap, relayé à travers des sons d'époque bien évidemment, mais aussi des éléments de contexte, contexte social, économique. La première émission du cycle a concerné la période de l'émergence du mouvement entre 1980 et 90, date de sortie de la première compile commercialisée, Rapatitude. Les années 80, une période contrastée pour le hip-hop en France entre dédain médiatique et explosion artistique. Tout s'est construit dans cette période et dans des lieux underground comme le terrain de la Chapelle, mais aussi dans des lieux comme le Globo, une discothèque. Radio Nova et Radio 7, Radio H, Radio 94. La radio a également eu son influence et son importance à une époque où le rap français n'existait pas encore. À partir de 91, le rap va sortir de sa phase underground, même si certains n'en sont jamais vraiment sortis, et s'acoquiner avec les maisons de disques qui voyaient enfin après tout ce temps que cette musique pouvait rapporter de la maille. À partir de là, la plupart des premiers groupes et MC ont produit leur album, ceux qui vont percer et donner au hip-hop sa notoriété quelques années plus tard, tout le monde les connaît. NTM, Assassin, Ministère Hammer, Solar, IAM, etc. Mais qui se souvient de ceux qui étaient là pour certains avant ces groupes-là? La toute première génération qui a œuvré dans l'ombre, qui a sorti un album dans une major au moment où ça se faisait. Pour le pire et pour le meilleur, souvent pour le pire d'ailleurs. Et puis, qui est retourné dans l'anonymat le plus total. Ces artistes qui n'ont pas passé le cap des années 90 et cette phase de médiatisation du rap. Il y en a eu un paquet, certains l'ont très mal vécu et ne s'en sont jamais vraiment remis, comme Lionel D, l'acolyte de Dynasty à Radio Nova qu'on va écouter cette semaine. Voilà donc de quoi il sera question. Des premiers de cordée, ceux qui ont participé activement à la gestation du rap français mais qui n'ont pas profité de ces retombées médiatiques et économiques, tout particulièrement entre 95 et 2000, là où les ventes d'albums étaient les plus importantes et où l'industrie du disque s'est gavée. On commence l'émission par un pionnier, un premier de cordée lui aussi, mais qui a réussi à rester présent depuis tout ce temps, à être reconnu, respecté, à surfer sur la vague hip-hop. Ce mec, c'est Dynasty, bien évidemment un des tout premiers DJ, qui raconte dans ce premier extrait documentaire que le premier challenge pour toute cette première génération a été de rapper en français et d'oublier le yaourt anglais. Les premiers à le faire seront Johnny Go et Destroy Man, un duo fondateur, une pièce maîtresse du rap français qui sera snobé à partir du début des années 90, rangé dans la catégorie artiste du passé. Petit rappel de l'importance de ce duo avec cet extrait de Verven Underground. On écoutera ensuite un enregistrement de 1985, une pièce de musée enregistrée cette année-là au Fort de l'Est. Johnny Go. Donc extrait avec Mouloud Achour, et ensuite on écoutera cet extrait de live, c'est parti.
Dynasty, question très simple, est-ce qu'au moment où tu as commencé à prendre des platines pour jouer du rap et pour faire ce métier de DJ, tu aurais pensé qu'aujourd'hui le rap soit cette culture aussi importante qu'elle est aujourd'hui?
Je l'ai envisagé, j'en ai rêvé. mais j'ai jamais été sûr que cela arrive un jour. Déjà, le premier combat, c'était que tout le monde rappe en français. Ça, c'était super important, parce que moi, je fais partie de l'école où il était obligatoire de savoir rapper en anglais, même du yaourt. Lionel D le faisait très bien. Par contre, Lionel D, c'était une photocopie de Spoonie G, de Melly Mel. Mais d'autres, franchement, c'était n'importe quoi. Et y a eu un jour où Death Roman et Johnny Go, c'était un clash avec Gangster Beat et Domi Rapporti. C'était au Phil One, un dimanche après-midi. Où là, ce jour-là, eux, ils venaient avec leur remake façon de Wild Style, puisque le film venait de sortir et la BO aussi. Et puis, des Stromae et Johnny Go sont arrivés avec le rap en français, rap de rue, rien de vulgaire. Hein, c'est ça qui était bien à l'époque, il n'y avait aucune vulgarité. On se l'interdisait. Mais sauf que le public, il y avait 200 personnes, voilà, ils ont choisi leur camp et j'ai considéré qu'à partir de ce jour-là, le rap en français, il n'y avait que le rap en français qui pouvait faire que ça s'enracine en France. Et ça a été le cas, et j'en suis très content parce que j'ai beaucoup milité là-dessus, et moi-même j'ai été rappeur, j'ai rappé en français, j'ai connu Lionel D, on a fait tout ce qu'on a pu pour pousser le rap en français. C'était quelque chose de très important à nos yeux. Et puis bon, bah ça l'a fait, mais au-delà de ce qu'on pouvait penser, rêver de ce que ça allait pouvoir devenir. Et puis bon, en France, on en est quand même... moi, j'ai 61 ans, il y a des gamins de 12 ans qui écoutent du rap, donc ça veut dire il y a 4 générations. C'est le pays au monde où il y a le rap est ancré, enraciné et fait partie de la culture populaire urbaine.
Déjà, à la télé, ce qu'ils disent de nous, pas une seule critique, car on les rend fous. As-tu déjà vu un plus beau bébé? Il est rond, très mignon, et puis tout bronzé. Ouais, c'est le vrai flash. Et puis comment il regarde ma couleur? Car c'est la couleur d'un Apache. De quoi vraiment les rendre rageurs? Pas ton âge, puis l'école en France, je suis le roi. À mon âge, même l'école ne m'arrête pas. Car Jet est le rendement de ma vie. Et tout ce que j'entreprends, je le réussis. Et négro, c'est le mot qu'ils m'ont donné pour avoir une chance de me rattraper. Ils ont réfléchi, se sont fracassés et plié en quatre pour ma jour et nuit. C'est pas pour un télo, mais pour complexer. Car vous savez mes frères qu'on les égloutit. Mes filles, la danse, tout est dans ma poche. Ma couleur n'est pas blanche, mais chez moi rien ne cloche. Je suis civilisé, mon rythme est sauvage. Le battement de mon cœur est un cri de rage. Car raciste, facho, tout ça connaît pas. Car au bout de mon coin règne notre loi. Et au premier qui me défiera, la couleur de ma peau n'a pas peur du combat. Est-ce de ma faute s'ils n'ont pas de chance? Ceux pour qui le regret est d'avoir la peau blanche. Personnalisé, ma couleur à la classe. Depuis qu'ils sont nés, toutes choses les dépassent. Et négro, c'est le nom qu'ils m'ont donné pour avoir une chance de me rattraper. Ils ont réfléchi, se sont fracassés et plié en quatre pour moi jour et nuit. C'est pas pour un télo, mais pour complexer. Car vous savez, mes frères, qu'on les éblouit. Mais y'a les déchirés, les choquins qui assurent. Qui eux sont des hébreux, ils sont toujours nature. Car eux, ils nous mettent fermes, ils sont à l'unisson. Dans les mêmes galères, feeling est notre nom. Et tant que nous, les harqueurs, on notre...
Voilà, c'est vieux, c'est old school, pour pas dire poussiéreux, mais cet extrait est un témoignage de l'état du rap en 1985, bien avant qu'il ne soit gravé sur disque. 5 ans plus tard, les deux qu'on vient d'entendre s'appellent Johnny Go et Destroy Man, parmi les premiers à rapper en français, des premiers de cordée qui venaient du rock, du reggae, de la culture sound system, puisque le rap n'était pas encore une musique qui passait à la radio quand ils étaient jeunes. Johnny Go, tout comme son collègue, a flirté avec le milieu du business puisqu'il a signé chez Barclay au début des années 90. Quelques maxi, un album en 1993, Réalité, album qui sera un bide et puis basta. Il a vite déchanté et s'est détourné du rap pour reprendre des études. Jussieu pendant 2 ans et puis un centre de formation pour conducteur d'engin qui l'a conduit en Amazonie pour conduire des camions dans le cadre de projets de déforestation. On va l'écouter, Johnny Go, à une époque où il comptait encore dans le hip-hop français. Il est au micro de la Rap Line. On était en 1991.
je donne l'amour et qui de toute son âme la rend en retour. Litre dur, la famille m'a fouille de rue de Maxime que j'estime, je mime.
Que tu comprennes, apprennes et prennes conscience. Pense que tu as de la chance et pour que tu te lances, te dépenses, avance avec intelligence, connaissance, bon sens, dans une bonne ambiance. Je balance ma science avec insistance, volonté, force de persévérance. Oui, à la différence de tous ceux qui te parlent, jugent, critiquent et qui ont tendance à se gonfler, à ronfler sur la cadence pour que tu danses, te balance avec insouciance et afin de mettre fin à ton ignorance. Oui, Johnny Go rap pour que tu donnes le maximum. Tu vois un peu, pour que ça soit naturel, trouver le truc, nanana. Ça quoi, donc là il a fallu bosser là. C'est pas des rimes trouvées par hasard. C'est une diverse réalité quoi. C'est pas une personne qui voit directement l'histoire, mais c'est à travers les autres qui la vit quoi. C'est pas juste la sienne quoi, donc c'est plusieurs quoi qui sont regroupés dans l'album quoi. Donc c'est pour ça plusieurs histoires quoi, avec un S réalité.
Alors avant de me regarder comme une balle trinque, un mec de plus que tu plains, avec des airs de gangster, de gras de malfrat. Laisse-moi te dire mon gars, quand Dynastie scratchait dans les terrains bas, quand nos boxers faisaient leur premier tag, tous les mecs se la donnaient dans le snort et le quebret, sur toutes les places, dans toutes les cités sans arrêt. J'étais déjà là,
je rappelle. Ici là c'est pas Los Angeles, c'est pas New York. Donc la vie qu'on mène, c'est ici qu'elle se passe, quoi. Donc les gens, ils se tirent pas au coin de rue dessus. Ben, y a des... Bon, certains, ils dealent par-ci, dealent par-là, mais c'est pas des... Ils se tirent pas dessus, quoi, alors. Donc je vois la vie déjà comme elle se passe ici, quoi, et non comme Ice Cube la raconte et me l'a joué Ice Cube à Paris, quoi. Bien que je critique pas Ice Cube. Avant que des mauvaises langues aillent dire « Ah, Johnny Go, il aime pas Ice Cube. »
Puis je largue, je balance et jette toutes les minettes qui me prennent la tête, quel que soit leur nom, quel que soit leur tête, l'endroit d'où elles viennent, leur silhouette, car toutes les filles qui
m'inquiètent. En plus, le monde dans lequel on vit, quoi, pour le décrire et pour pas tomber dedans par la suite, parce qu'il va falloir continuer sans et rester soi-même, quoi. Et je pense que la spiritualité, elle aide à être soi-même, quoi. Parce que quand on croit en Dieu, on peut pas se prendre pour quelqu'un d'autre, quoi. Déjà, Dieu te demande d'être toi, alors tu vas pas aller te prendre pour lui ou aller par-ci jouer ça, quoi.
Laisse-moi te dire une chose que tu ne sais pas, bizarre, tu peux raguer.
Non, mais quand j'ai commencé le rap, quoi, déjà, j'écoutais du reggae, quoi, et j'écrivais déjà des morceaux, quoi. Déjà qu'on allait dans les trucs avec Destroymen, les sons de système, on rappait et on faisait des refrains ragamuffin. Une fois, on avait fait un clash avec les Sai Sai. C'était en 87. Ça avait chauffé la salle, elle criait, là. Et là, on prenait les ambiances, mais quand ils ont vu faire un peu de ragamuffin comme eux, là, ils ont fait « Oh !» Mais parce qu'on avait déjà ça, quoi. On écoutait ça aussi, quoi.
Que de tous les rappeurs et de tous les MC.
C'est bien de savoir c'est quoi un la ou un ré ou un mi, quoi. Et qu'il y a une différence. Il rappe, c'est pour ça, parce qu'en France, ils rappent tout le temps « Ah !» sur la même note. « Ah, pas « tourne »,« tourne ». Non, ils font pas ça. Ah, parce que quand tu dis pour que tu comprennes, apprennes et prennes conscience, pense, t'as déjà la note, elle a fait ça. Mais si je fais pour que tu comprennes, apprennes et prennes conscience, pense comme tout cela, alors ok, là je fais du hardcore.
Personne ne peut m'aimer comme toi, personne ne peut m'aimer comme toi, personne ne me donne tant de joie. Oh, oh, parce qu'il y a plein de gars qui courent après des battements, qui ont la tête qui tombe, qui ne s'arrêtent pas de théma. Dès qu'ils voient passer une fille ou bien une femme sans son riba, qui font tout, 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 qui font tout un cinéma. Et puis dès qu'ils réalisent qu'elle a un super dharma, qui tombe en extase à moitié dans le coma, qui vont même jusqu'à dire qu'elle ressemble à leur maman. Et pour que tu réalises que je joue pas les gros mains, ils disaient: pour mon amour il n'y a pas de prison, pour mon amour il n'y a pas de saison. Parce que personne ne peut m'aimer comme toi, personne ne peut m'aimer comme toi, personne ne me donne tant de joie. Oh, oh. Parce qu'il y a plein de filles qui se font marcher pas à pas, côte à côte qui demandent de leur offrir un repas. Et quand t'as pas de thunes, quand tu ne les intéresses pas, à faire la tête avec des fils à papa. Et dès qu'elles réalisent que t'es vraiment sympa, qui tournent autour de toi comme on tourne avec un compas, qui vont même jusqu'à dire tu ressembles à mon papa. Et comme ces genres de plans, je sais que tu me les feras pas. Ils disaient: pour mon amour il n'y a pas de prison, pour mon amour il n'y a pas de saison. Parce que personne ne peut m'aimer comme toi, personne ne peut m'aimer comme toi, personne ne me donne tant de
On va causer maintenant du collègue de Johnny Go, Destroyman. Lui aussi vient du rock, de la culture sans système, et lui aussi est un pionnier du rap français qui ne va pas passer le cap du début des années 90. Il signe pourtant chez Barclay, sort un disque pas terrible, déjà dépassé par son époque au moment de sa sortie, et puis il va sortir des radars médiatiques pour retourner dans l'anonymat. Avant de sortir du jeu médiatique, il va quand même faire une apparition dans la rap line comme tout le monde. Au moment où ça se faisait, la sortie des premiers albums. Son album Nouvelle Classe, c'est comme ça qu'il s'appelait. On voit déjà à travers cet extrait d'interview qu'il est dans un autre délire, une autre génération, que le rap français tel qu'il était à l'époque ne lui convenait déjà plus. Destroyman dans la rap line, nous sommes en 1992.
L'événement, le choc, c'est le retour du parrain du rap français, Destroyman, avec un morceau dédié à celle qui fut la première Premier ministre de France, Edith Cresson. Le morceau, c'est Edith, le rappeur, c'est Destroyman. Alors attention, parce que sur la rapline, voici l'interview et le tournage d'un roi venu réclamer son trône, Destroyman.
Golf Draw, Grand Boulevard, Rock'n'Roll, Black Panthers, Rebelle, des trucs teenagers, mais ça nous a fait passer le temps et oublier qu'on avait faim. Avant, on était dans le rock'n'roll et tout, mais c'était assez. On était trop embêtés. Parce qu'en vérité, on allait dans les booms, c'était. On était répertoriés comme. C'était tricard, quoi. Une vieille mode. Et tout d'un coup, le rap est arrivé. On restait rock, c'était ce qui correspondait le mieux à notre style de vie. Le rap est arrivé. Et on a fait. Voilà, c'est ça, le rock c'était fatigué. Voilà un nouvel élan qui correspond mieux à notre nouveau souffle. À notre souffle, à nous. 92 ou c'était 83 à l'époque. Et puis voilà, on est rentré dans le rap. En vérité, c'est le rap qui s'est collé à notre vie, quoi. Moi, j'ai commencé à écrire, j'étais tout petit, j'avais 8-9 ans. Et les profs, quand ils m'ont chopé en train d'écrire, ils m'ont dit « Où t'as copié ça ?» Je fais « Non, je viens de l'écrire, madame. » Elle me tire l'oreille, elle me fait « Allez, arrête de mentir. Tu sais, toi qui as écrit ça ? Récris-en un tout de suite. » J'en récris un et après, chaque fin d'année, c'était les orphelins d'Auteuil. Chaque fin d'année, j'en lisais pour toute la kermesse, devant toutes les familles. Je devais les saouler, mais bon, à l'époque, ça m'a servi. À l'époque, c'était, on faisait du rap. Moi, je faisais du rap avec Johnny Go. Et moi, je me suis dit, je regarde la danse des canards, tout ce qu'il y a à la télé. Je me suis dit, mais on peut faire un disque aussi. Parmi tous ces trucs bidons qu'il y a, pourquoi on n'aurait pas ne serait-ce qu'une petite place ? Même une plus grosse, je dirais. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que les maisons de disques, ils ont fait blocage. Ils ont dit, nous, on est... À l'époque, c'était la mentalité. On est des salariés et tout. Qu'est-ce que des galériens de la rue, ils croient qu'ils vont nous griller comme ça ? Si on veut l'associer aux cités, aux banlieues, à la galère, aux gens énervés, ça progressera pas parce que c'est pas ça le rap. C'est comme si on voulait associer le rock'n'roll au blouson noir. C'est ce qu'on fait maintenant avec le rap. Le rap, on met des gars en grosses baskets qui font les clowns, des bébés, et qui représentent plusieurs générations. Alors qu'en vérité, ils sont plus... Quand je vois tous les rappeurs qu'il y a maintenant, c'est super, je préfère voir des rappeurs faire ça qu'aller casser des choses. Mais ils représentent plus mes petits-neveux que moi, par exemple, ou que les gars de ma génération qui font d'autres choses. Et le rap, c'est de l'art. Il faut qu'il nous laisse montrer notre art. Non, moi, j'aime bien tout ce qui est sensible, tout ce qui est vrai. Il y a tellement de belles choses. Dans la chanson française, il y a Cabrel, mais il y a plein de gens qui font des choses superbes. Si je suis un bon rappeur, comme j'entends dire souvent autour de moi, il serait vraiment ridicule que j'écoute que du rap. Ça veut dire qu'il y aurait un manque de sensibilité, déjà. Or, le rap, c'est sensible. Quelqu'un peut écouter du rap et ensuite entendre autre chose et aimer. Mais tous ceux qui veulent faire style, nous, on est à fond dans le rap, c'est parce que justement, ils savent qu'ils sont à côté de la plaque. L'album, il n'est pas sorti parce que on était fiers à l'époque et ils nous ont fait comprendre que quand on est pauvre et qu'on n'a rien, il ne faut pas être fier. Il faut fermer sa gueule et faire ce qu'on dit. Donc, comme nous, on avait que la fierté, on a préféré la garder et attendre le bon moment pour revenir avec toujours la même fierté. Il y a eu la prison, il y a eu des sales histoires dans les rues, tout en essayant de rester la tête nette. Parce que le plus dur dans tout ça, c'est qu'on peut perdre sa tête, devenir fou. Mais ça va, je lâcherai pas l'affaire. Si je lâche l'affaire, c'est comme si, en fin de compte, je me tuais un peu. Et j'ai pas envie de me tuer, ni voir les gens que j'aime se laisser aller à leur la rigueur. Ce que je vois, c'est que la télé, ils font style, oui, il y a beaucoup de racisme, l'extrême droite doit s'arrêter. Mais est-ce qu'ils voient aussi ce qui se passe? Les publicités, cherchez un noir, cherchez quelqu'un qui est bronzé, qui ressemble à un arabe. Il n'y en a pas. Vous regardez dans l'histoire, il y a eu des guerres en France, les dernières guerres, des noirs sont morts, des arabes sont morts. Chaque fois qu'on montre un monument, il ressemble à quelqu'un qui a une moustache arrondie. Il n'y a aucun truc commémoratif pour eux. Tout ça, c'est brimer, écraser des gens qui fait que, en fin de compte, ici, le racisme, c'est un droit. Ils ne peuvent pas lutter contre des gens alors qu'ils permettent à ces gens d'avoir une institution et une façon de vivre qui fait que le racisme passe en douceur. Donc, c'est du vent, tout ça. Ils ne sont pas vraiment méchants, les gens. Moi, je ne crois pas qu'il y ait les gens qui soient hyper racistes, ceci, cela. C'est qu'en fin de compte, ils voient ce qu'il y a autour d'eux et on leur propose ce chemin. Ils regardent, ils vont à tel endroit. Dans une boulangerie, vous avez déjà vu une noire servir du pain? Vous voyez, des petites choses comme ça, ça fait qu'on se dit, quand même, s'il n'y a pas ça, c'est que quelque part, il y a quelque chose. Et voilà. Et après, on voit d'autres qui essaient de récupérer ceci, cela, mais c'est un faux problème. Faux problème.
Bonjour, une femme à Matignon, c'est officiel. François Mitterrand vient de nommer Edith Cresson au poste de Premier ministre. C'est la première fois en France qu'une femme va diriger le gouvernement.
Edith, tes enfants ont des problèmes. Même quand ils sont bronzés, on dirait qu'ils sont blêmes. Ils restent trop sans rêver dans des cages d'escalier, plantés comme des totems. Edith, je te tutoie, oui j'ose. Tes paroles sont bien, mais qu'est-ce que tu proposes? Penche-toi sur les dossiers des blocs ou un budget. Entends-nous, bordel, puisqu'on cause. Edith, si seulement tu voyais comme on s'ennuie et comme la vie nous plaît. Dès qu'on fait un mouvement, on nous mate en riant, chuchote en graines de délinquants. Edith, je compte jusqu'à 3. Beaucoup de jeunes ne comptent que sur leurs doigts. On aime pas les embrouilles, nous on aime que ça. Paix, amour, beurre, baccalauréat.
Tirez, 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 sur le côté. Tirez, 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 swingez maintenant.
Edith, on fait pas exprès. Aujourd'hui être jeune c'est être laid. C'est les vieux qui commandent, qui nous mettent à l'amende, prétextant qu'ils y étaient. Edith, nous on n'a rien, pas un crédit, juste la thune d'un pain. Dans les banques on nous jette, mes parents perdent la tête. Et chez toi personne ne fait rien. Edith, entoure le problème, fait que beaucoup de jeunes t'écoutent et t'aiment. Mais si tes signatures amoindrit les bavures, mets ta main sur nos vies comme nos baptêmes. Edith, notre première dame, flambeau et fierté d'une multitude de femmes. Blesse la misère au cœur, qu'on n'ait plus son odeur, comme le frais le tranchant d'une vraie lame. Edith, on compte tous sur toi, pour les faire bouger tous ces gros tas. Ça serait vraiment super que tu pousses leur secrétaire à te sortir les dossiers que tu ne vois pas.
Autre fondateur du rap français tombé dans l'oubli après une période, celle des années 80, où il a été un des boss, quelqu'un qui comptait et qui était respecté pour ça, tout comme Johnny Go et Destroy Man. Ce mec, c'est Lionel D, alias Lionel Egienta de son vrai nom. Il a été le MC animateur de l'émission Dynastyle sur Radio Nova entre 87 et 89. J'en ai déjà parlé lors de la première émission, le premier épisode sur l'histoire du rap. Il a été à la pointe en cette fin de décennie, très bon improvisateur, à l'aise en freestyle. Il fait lui aussi partie des tout premiers à avoir rappé en français. Il rivalisait sans problème avec les meilleurs MC qui venaient à la radio et qui ont pondu des disques plus tard. Et puis, il lui non plus n'a pas passé le cap de la décennie. Pourquoi? Comment expliquer cette trajectoire d'un mec qui a tutoyé les sommets du rap à une époque et qui s'est retrouvé lâché par tout le monde au début des années 90, un mec qui va sombrer dans la dépression et qui va déménager à Londres pour fuir ce passé et vivre de petits boulots. Il est mort là-bas, c'était en février 2020, dans l'indifférence et l'anonymat. On va écouter encore lui, Dynasty, nous parler de Lionel D, de l'échec de son album, de sa relation avec lui, de son mauvais caractère. Il le connaissait très bien pour avoir bossé avec lui pendant plusieurs années. Mais avant ça, on va écouter un extrait de reportage où Lionel D himself cause des conditions de vie en banlieue et de l'émergence du rap. Il a encore toute la légitimité pour le faire. Nous sommes en octobre 1990, Lionel D.
Génie du dernier album de Quincy Jones, Back on the Block, c'était l'équation hip-hop égale bebop. À la question du magazine américain USA Today, Alors, où en est le rock en 1990? Tom Petty répondait pour sa part récemment « Le rock, mais quel rock ?» Le rock, aujourd'hui, c'est le rap. Et il avait furieusement raison. Le rap, c'est vrai, 10 ans après ses débuts aux États-Unis, remplit la fonction qui était celle du rock à ses origines, à savoir exprimer la réalité de la rue et de la jeunesse. Mais le rap, ça n'est pas seulement le médaillon d'or autour du cou, les Adidas et le célèbre « Yo, man, my gold, my chain ». Non, le rap, c'est également la violence, c'est également le crack, c'est également le chômage, c'est également la marginalisation de toute une importante partie de la jeunesse noire et hispanique aux États-Unis. Mais peut-on rapper en français alors qu'on avait déjà du mal à rocker en français? On a l'impression que oui, depuis quelques semaines, où l'on entend du rap sur les radios, un tout petit peu seulement, parce que le rap, ça continue à faire peur, puisqu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Et puis, le rap, on en entend parler à l'occasion de l'actualité, à propos des bandes, à propos des Zoulous. On en a beaucoup parlé donc cet été, et on continue de le faire à la rentrée. Du rap en français, ça peut donc exister, puisque on retrouve exactement comme aux États-Unis désormais, les mêmes conditions sociales. Le rap en français donc, où, pourquoi, quand, comment, et surtout, par qui.
Accepte ou pas en guerre, les magouilles dans mon adolescence ont géré mes affaires. Maintenant je prends du recul.
Vivre dans une cité, je veux dire, c'est pas véritablement vivre quoi. C'est, je veux dire, on met les gens dans des. On les entasse dans des cités, on les met à part. Genre tous les émigrés à part, et tous les gens qui n'ont pas de moyens, qui n'ont rien quoi, on les met à part. Alors tu vis là-dedans, tu. C'est un peu un autre monde quoi. Il y a beaucoup de gens qui croient que. Que l'agressivité vient du fait que les mecs ils bossent pas ou un truc comme ça, mais il y a aussi l'environnement, tout joue quoi, je veux dire. Et puis en plus ils vivent dans un environnement où il y a beaucoup de gens qui ne les aiment pas en plus quoi, je veux dire. Et moi je me compte dans le tas quoi, alors bon les glandes quoi.
Il y a pas 36 manières, il faut du savoir-faire, tu peux comprendre et ressentir ça. Est-ce clair ? Il y a pas de problème, c'est fait pour toi dans tout ce système où tu mènes un dur combat, mais je ne peux pas m'empêcher d'improviser dans cette émission parce que mon son est bon et sans façon. Je ne prime pas, je ne joue pas de jeu. Avec ma bouche, je fais ce que je veux. Remarque un peu une chose. Toutes ces consonnes et ces voyelles pour lesquelles j'excelle, je n'ai pas le nom de Lionel.
Il y a pas d'ampoule, ça pue la pisse, tu carreau cassé, c'est crado, c'est. Alors, qu'on se mette à la place d'un mec qui a 16 piges, qui a pas une thune dans ses poches et qui passe une soirée là-bas, bah, le mec il se fait chier, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il cherche à s'amuser, à se distraire, quoi. Il cherche à rendre coup pour coup quelque part, quoi.
Qu'est-ce que tu dis de ça? Dédicace à mon père, à ma mère, et à tous mes amis de Vitry, et à tous ceux qui sont sur terre, les pas beaux, les laids, et même les gentils, j'improvise. Et tu as l'air étonné, ce que je fais devant toi, ça s'appelle rapper. Mais tu peux les filmer. Les beurs de la deuxième génération sont ici pour rentrer dans l'action. Regarde-les, ce sont des êtres humains, pas des êtres à part. Je peux pas, je peux pas les coudins, il faut les respecter, c'est moi qui fais le tir.
T'es rebeu, t'es black ou ce que tu veux, je veux dire. Les gens n'ont rien à foutre de toi, quoi. Tu peux crever, quoi. Et c'est ça la vérité, quoi. Et je veux dire, on est des êtres humains, on n'est pas des chiens, quoi. Et si ça n'a pas changé, c'est tout simplement parce que les gens n'en ont rien à foutre, quoi. Genre, l'État, ils sont fous de savoir qu'il y a des mecs qui galèrent dans des cités, qui ont rien, qui ont les glandes ou qui se cament ou ce que tu veux, quoi. Moi, j'ai un pote en ce moment, je veux dire, il pèse 30 kilos, il a 34 ans, il est en train de crever.
Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était une heure d'acidité sur Nova. Mais c'est pas fini, Lionel est avec nous et puis je crois qu'on a, avant de se quitter pour les vacances et reprendre à la rentrée, on a quelques messages à faire à tous les D-Boys. Entre autres que le mouvement pourrait devenir quelque chose super dans l'avenir, alors il faut le protéger.
T'as bien raison de le dire.
Et je ne peux pas mentir.
A peace and unity, il fallait comprendre. A peace and unity, il te faut comprendre. Et viens te joindre à ceux qui en augmentent le nombre. Amour et paix dans ton cœur à l'abri du son. Peace and unity, amour et puis union. La force et la justice pour tes compagnons. Avec la joie de vivre, y donner tout son cœur. Peace and unity te donne leur chaleur.
Mais on dirait que certains ne veulent pas.
qu'il y a d'autres. Lionel, si tu veux continuer l'histoire du Loukage, déjà, ce livre venait de sortir Titi et nos brues. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
On les a bien servis dans cette
visite. Tu m'étonnes. Et puis, moi, j'étais là ce jour-là, quand ils étaient en train de faire la pochette. Là, je vois le Lionel D en espèce de patte de mouche.
On va le montrer quand même.
Ouais.
Voilà, c'est cet album.
Et alors, pourquoi il est flou ?
Je sais pas, parce que Lionel bougeait beaucoup ?
Non, c'est parce qu'il le trouvait trop moche pour qu'on voit sa tête. C'est horrible.
Bah, surtout si ça a été dit comme ça.
Ouais.
Ah bon, alors c'est horrible, alors.
Je l'ai entendu comme ça, ouais.
Alors, Lionel, lui, est pas du tout sur la compil Rap Attitude, pourtant il est déjà
après,
dans...
On a insisté pour que le maxi d'après ait sa tête, quoi.
On va en parler du maxi d'après. Il n'est pas du tout, lui, sur Rap Attitude, alors qu'il existe déjà, pourtant.
Ouais.
Toi aussi, mais par contre, toi, tu y es sur Rap Attitude. Est-ce que tu sais pourquoi lui, il n'y est pas ?
Non.
Non ?
Non, je ne sais pas. Ouais, ça paraît évident. Alors non, c'est peut-être qu'il avait déjà signé.
Chez Sony ?
Ouais. Chez Squat.
Sur Rap Attitude, on rappelle...
C'est pour ça qu'il n'y est pas, ouais.
Il y aura NTM, ouais, Assassin...
Ouais.
Bon, il y aura aussi Faster Jam, et qui sera plus dans les coulisses.
Personne n'avait signé, après les maisons de disques ont fait leur marché.
Il y avait toi qui avait vraiment, un nom déjà établi, entre guillemets. Puis on voit la pochette, là, avec Solo. J'aime pas trop ce Solo, moi.
C'est quelle année, la sortie du...
Là, c'est 89, pardon.
Et ça, c'est Colt hein, qui fait... c'est Colt ou Motu ?
Motu, je crois.
Motu, ouais.
C'est Motu, ouais. Pour revenir au premier album de Lionel.
Solo, c'est un gars super.
J'aime pas trop, moi.
Ah, c'est une privée de joke. L'album de Lionel D, c'est une expérience, comme moi, avec le recul, c'est un peu douloureux, c'est des regrets. C'est,
beaucoup de regrets, oui.
Beaucoup de regrets.
Ouais. Déjà parce que les maquettes qu'on avait fait à Nova, elles étaient beaucoup plus chaudes. Lionel était beaucoup plus rude. Donc, il y a eu le passage en studio qu'on n'a pas beaucoup vraiment maîtrisé. Encore que ça allait, mais c'est le caractère de Lionel qui m'a beaucoup déçu et son manque de travail, de rigueur. Il était un peu, ça y est, il avait signé, il a cru que ça y est, c'était bon quoi. Plus le fait que je lui ai dit ton album, si t'es que tout seul, t'es que tout seul, il faut des featuring, pourquoi tu fais pas les gens ils vont attendre un disque qui ressemble à l'état d'esprit de l'émission. Il a jamais voulu. Il y a des textes, ils dataient de 10 ans. J'ai dit mais fais du neuf avec un flow neuf. Il a jamais voulu, il voulait les caser. Ça, plus après, la pochette, qui est une horreur. Le mastering, où c'est fait par des gens qui n'ont jamais masterisé un disque de rap, qui disent il y a trop de basses, il y a trop de basses, ça ne va jamais passer. Et du coup, le truc, il est plat.
Ce qu'il faut rappeler, c'est que même si toi, tu es sur le disque, tu as fait toutes les prods, tu n'es pas signé en artiste dessus, c'est uniquement Lionel. Donc, tu n'as pas vraiment ton mot à dire, juste à le conseiller.
C'est ça, ouais, aussi. Même si je réalise le disque, hein, mais à l'époque, de toute façon, déjà, il n'y avait pas de diffuseur. Nova venait d'arrêter de diffuser du rap, ou un truc de temps en temps, vraiment. Un petit gourou, un petit Trap Cool Quest, parce que c'est fréquentable.
Il faut rappeler que Mon Frère Lover, c'est sorti pendant la guerre du Golfe, en plus.
C'est ça, le maxi dont tu parlais, 1991, pour la guerre du Golfe.
Ouais. On était en train d'enregistrer, on voyait à la télé les trucs tout verts avec les bombes qui tombaient, c'était trop bien.
Sur la 5.
Du coup, Squat nous fait une petite tournée promo.
On précise Squat, c'est le label, hein, pas le rappeur.
Ouais. Donc on va dans. On crapahute un peu et dans les radios bleues, France Inter, Radio Bleu. Et en fait, il y a des endroits où on n'a pas été, parce qu'il y a le Front National local ou les fachos locaux qui disaient « on va péter la radio si vous jouez ce morceau ». Donc en fait, il a quasiment pas été diffusé. Bon, il y a eu le clip fait par Rapline, et puis on n'a pas fait grand-chose.
Ouais, même le clip de Rapline, il était un peu. Enfin, c'est toujours. Il y a toujours eu un côté aléatoire dans les clips Rapline. Il y en a certains qui marchaient très bien.
C'était pourri, quoi.
Et puis d'autres qui passaient à côté, dans une cour, avec les enfants.
Avec deux gamins par la main. Tu te dis, mais c'est quoi ça?
Ces gens me promettent dans la lune, planète pour un délire. Pour ceux qui croient les tenir, le pouvoir d'être généreux, je suis mort de rire. Je me revois encore, cherchant les bons plans, m'incrustant sans remords. Oui, j'en voulais vraiment. Je faisais pas mal de boîtes, enfin le peu qu'il y avait. Attendant seul dans mon coin quand on me laissait. Oui, qu'on daignait me laisser un micro. Pour quelques minutes, sans plus armer de mes mots. Sous les regards de ceux qui comprenaient, je pouvais parler, j'espérais placer les messages communiqués. Devenir un rappeur respectable, un artiste en somme. Qui aujourd'hui te dit ceci de ma homme, ne me juge pas.
Est-ce que cette mauvaise expérience, ça a mis un coup dans l'aile à votre relation?
Ce qui a mis un coup dans l'aile à notre relation, c'est que bah, je t'aime, c'est avec Lionel, c'était je t'aime moi non plus, quoi. Il a jamais été très doué en amitié, et même il avait un côté. Il se prenait pas vraiment pour une merde parce que bon, il rappait bien et puis d'un autre côté, il supportait pas les critiques, notamment les vôtres, de Get Busy. Ça lui faisait très mal et puis Lionel, il rêvait de chanter et d'être habillé comme Barry White, tu vois. C'est surtout la tournée qui a suivi parce qu'on a quand même. Fait, je sais pas, 200 dates dans toutes les MJC de France. Et Lionel, chaque fois, il me disait, ah, tu sais, tout le monde dit que t'es trop technique comme DJ, et qu'est-ce que c'est dommage que tu sois pas noir, ou au moins rebeu, quoi, parce que...
Je veux quand même revenir, tu dis, les critiques de Get Busy, on n'a jamais allumé Lionel D dans Get Busy, donc je ne sais pas d'où il sortait ça.
Mais je racontais juste une anecdote. Rappeur de Frites Merguez, rappeur de MJC.
Je vais t'expliquer une chose. Un jour, d'ailleurs.
C'est peut-être dans.
Mais c'est comme la conversation qu'on a eue une fois, c'est les on dit. Mais en fait, tu n'as aucune preuve et il n'y a rien eu là-dessus, c'est pas vrai. Donc, par contre, un jour, il croise un réseau, face à moi, il dit ouais, les mecs de Get Busy, ils ont dit que je n'étais pas un vrai rappeur. C'est à l'époque qu'on se croisait dans le métro encore. Tu vois, bon, bref. Et mon pote, qui est un peu brut comme ça, on l'a jamais dit ça. Il lui dit, moi, je suis dans Get Busy, il savait pas, tu vois. Il lui dit, on l'a jamais dit ça. Il lui dit, mais c'est vrai que des fois, tu saoules. C'est tout, il n'y a jamais eu rien d'autre. On a toujours été respecté tout. Après, on rigolait sur scène Anastase, mais comme tout le monde, quoi, tu vois. Mais bon, bref. Mais je te défie de trouver une ligne dans Get Busy. Où
mais
on
je, te crois,
dit,
je te crois,
tu
je
vois,
te crois.
Donc, c'est, les gens me prêtent beaucoup de choses.
Que c'est des trucs que j'ai cru au fil du temps, parce que ça, déjà, ça me semblait... à la limite vraie, tu vois.
Pas de corrige.
Comme critique, quoi, tu vois. Donc, ils ont pas tort, mais je vois que Lionel, ça l'affectait beaucoup.
Non, mais chez Lionel, il y avait un côté, t'as l'impression qu'il allait même acheter le pain en rappant, quoi, tu vois.
Oui.
Bon. Et c'est pareil, je pense que, honnêtement.
C'est ça, exactement.
Le problème de Lionel, c'est que. C'est pareil, c'est des mecs qui sont charnières, c'est-à-dire qu'ils sont très importants à une époque.
Ouais.
Il est parfait dans son rôle. Avec toi,
Odina Style.
Mais quand il faut passer sur le disque, c'est autre chose. Et il est plus adéquat pour ça.
Ouais.
Il est plus adéquat. Et ça, tu peux rien y faire. C'est le timing, c'est un truc qui ne s'invente pas.
Mais il aurait pu, puis il n'y a pas. Tu vois, moi je trouve que musicalement, il y a quand même des bons morceaux.
Non, mais ce que je veux dire, je comprends que c'est injuste, parce que le mec a une vraie légitimité, il est important dans l'histoire.
Ouais.
Mais au moment où ça devient autre chose, qu'on rentre dans le rap game, l'industrie du rap, Il est plus dans les temps, quoi, tu vois.
Il y a des gens qui parlent, qui se prennent pour des rois. Les ignorants sont à l'écoute puisqu'ils sont leurs proies. Toi qui écoutes tous ces mots, n'as-tu jamais remarqué ces gens qui parlent et reparlent, usés, fatigués? Ils ont tellement de choses à dire et tellement peu à faire qu'on croirait qu'ils sont les acteurs d'un crime par trop amer. Ou qu'ils aillent droit du noir, ils sont désespérés. Mon pauvre ami, si tu crois que pour toi je vais pleurer, tu te trompes énormément, tu te vantes, je trouve pas ça marrant. Et tu en ris, tu vis ta vie de cinéma de pitre. Et tu te crois supérieur, puis-je savoir à quel titre? Je voudrais pas savoir à te dire qu'on est tous les mêmes, mais quand même.
Alors, recherche du groupe perdu, session 379, 9e épisode sur l'histoire du hip-hop en France. Cette semaine, on rend un hommage aux oubliés de la première génération de rappeurs, à ceux dont la voix ne s'est plus fait entendre à partir du début des années 90, date à laquelle le rap a fait connaissance avec l'industrie du disque et le business. Ils se nomment Johnny Go, Destroyman, Lionel D, New Generation MC, Les Little ou encore Salia. La trajectoire de ces artistes ou groupes est la même, ils participent à l'émergence d'un rap en français, lui donne son identité, ils sont au top au moment de la sortie de Rap Attitude en 1990. Ils signent dans une major dans la foulée, enregistrent un album, une chanson, et puis ça fait plouf, plus rien, oublié pendant 30 ans. Leur nom, leur histoire refait surface auprès du grand public à l'occasion des 40 ans du hip-hop en France. Il y a depuis un an environ une tripotée de séries documentaires sur l'histoire du hip-hop. Tout le monde s'y met, car entre-temps, le rap et le hip-hop est devenu un mouvement musical majeur. Tous ceux dont il est question aujourd'hui sont des fondateurs du mouvement en France. Ils ont participé très activement à la gestation du rap français, à son émergence. Prochain sur la liste des oubliés du jour, les New Generation MC, c'est pas facile à dire. Le premier vrai groupe de rap français, puisqu'ils étaient 6. Le groupe s'est constitué de manière informelle à Radio 7, où œuvrait un certain Sidney. Au micro et aux platines, Radio 7, la seule radio qui donnait le micro aux jeunes des banlieues à l'époque. En 88, c'est le groupe phare de la scène rap en région parisienne. Ils sont à l'origine du mouvement Authentique, une association d'artistes de Châtillon, Bagneux, Vitry et Ivry, où on retrouvait aussi les Little, EJM, Destiné, Mélas, Bilov, des noms qu'on a déjà écoutés dans l'émission consacrée au rap féminin. Vers la fin des années 80, les New Generation MC avaient une trentaine de titres. Ils écrivaient tout le temps, les flows étaient posés uniquement sur des boîtes à rythme à l'ancienne. Et puis en 1989 sont arrivés les premiers sampleurs. Les samples allaient révolutionner le rap en France et partout ailleurs. Ceux qui n'ont pas pris le train du sample sont restés sur la touche. Et ce fut le cas avec les New Generation MC. Une seule chanson enregistrée en studio, toutes les mêmes qui figurent sur Rap Attitude. Et puis c'est tout, le groupe a explosé en vol au moment de la sortie de cette compile. De leur histoire, il ne reste que ce morceau et des freestyles à la radio. Du groove perdu 100% authentique, c'est ce qu'on aime ici. Pour continuer notre histoire du jour, on va écouter un MC qui fait lui aussi partie de cette première génération de rappeurs. Il s'agit de Driver. Il a bien connu les New Generation MC et il nous en parle. On écoutera ensuite un freestyle mythique à Dina Style. Les New Generation MC, leur vie, leur œuvre, c'est parti.
Mais là, j'aimerais commencer par le commencement. Et là, on est obligé de repartir loin, très loin, c'est-à-dire dans les années 80. Dans la fin des années 80, on va dire, le rap américain commence à vraiment devenir sérieux. Il traverse l'Atlantique, il vient jusqu'à nous. Et en fait, quand ça arrive en France, il y a une poignée de personnes qui décident d'en faire, mais ils le font pas en français, parce que pour eux, le rap, c'est américain, donc c'est en anglais. Sauf que les mecs qui décident de le faire en anglais ne savent pas parler anglais. Donc, ils vont faire un rap dans ce qu'on appelle dans le jargon musical le yaourt. Je m'explique. Ça veut dire, au lieu d'avoir une vraie phrase en anglais, on va faire que de la phonétique. C'était vraiment ça. Il y a des gens qui montaient sur scène et qui faisaient ça. Il disait, je fais du rap. Maintenant, en 2018, ça peut paraître bizarre et marrant de dire ça, mais faut savoir qu'à l'époque, il y avait que ça, et c'était cool en vérité. Moi, je dis ça moi-même, je l'ai pas vécu, hein, j'étais tout petit à ce moment-là, mais c'était cool. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens qui ont vécu cette époque-là. Ils me disaient que quand tu faisais ça, c'était cool. Même si c'était pas du vrai anglais, t'avais un style, t'avais un flow, c'était cool. Sauf qu'est arrivé le moment où il y a des mecs qui ont dit « Bon, ça suffit. Il n'y a pas de parole dans ce que vous dites. Vous dites rien. C'est ni anglais ni français. Donc, nous, on va se mettre à rapper, faire ce que vous faites, mais on va mettre des vraies paroles en français dessus. » Et ça a été le début du rap français. Alors, je vais citer des noms en vrac. Il y avait Destroyman et Johnny Go. Donc, on fait des trucs. Il y avait Neck plus Ultra. Et il y avait un groupe qui s'appelle New Generation MC. C'est un groupe qui vient en gros de Châtillon, 92. Et ils font partie de ces premiers rappeurs français, des premières personnes à avoir placé des mots en français sur ces flows qui venaient des États-Unis. Et ce groupe-là venait du 92. Et ensuite, il y a eu une émission, j'en ai souvent parlé ici. Il y avait des émissions radio où tu pouvais venir faire des freestyles. À l'époque, il n'y avait pas de disque. Hein. On n'allait pas en studio pour enregistrer des disques de rap français, hein, faut le savoir. C'est-à-dire, il y avait des DJ qui faisaient des soirées en plein air ou alors dans des salles ou alors qui animaient des émissions radio. Et il y avait cette émission de radio qui s'appelait le Dynasty, animée par DJ Dynasty, où il y a des rappeurs de région parisienne qui venaient rapper, donc faire des freestyles. Ce qu'ils avaient écrit, ils venaient les cracher directement sur les instrus que DJ Dynasty passait, qui étaient des phase B, ce qu'on appelle des phase B, donc des versions instrumentales, des morceaux américains déjà existants. Et il y avait un groupe qui venait souvent, c'était New Generation MC, et à chaque fois qu'ils venaient, ils mettaient le feu. Donc c'était un groupe très important dans la fin des années 80 et le début des années 90. Et je le répète, ils viennent de Châtillon dans le 92. Donc j'étais obligé de commencer cette émission en parlant d'eux, parce que c'est peut-être la première trace de rap du 92, à moins que je me trompe, à moins que j'oublie quelqu'un avant, c'est peut-être la première trace en fait. Les New Generation MC, alors en vrac il y avait GMB, il y avait RMC, il y avait Human B Jess, il y avait DJ Double P, il y avait JMJ, et je pense que j'ai dit tout le monde. Et moi, je me rappelle de tous leurs noms comme ça de tête, parce que moi, j'écoutais les freestyles, en fait, qu'ils faisaient sur, dans le Dynasty, sur Radio Nova. Et effectivement, chaque fois qu'ils passaient, c'était dingue, c'était le feu. Et c'était un groupe très, très, très respecté. Alors, le milieu du rap était beaucoup plus petit, mais c'était un groupe très, très respecté. Et vous comprendrez pourquoi, je vous en reparlerai plus tard pendant l'émission. Mais en tout cas, voilà. Je crois que c'est 1990 ou 91, mais 90, il me semble plutôt. La première compilation de rap français sort. Ça s'appelle Rap Attitude. Et New Generation MCs ont un morceau dedans qui s'appelle Toutes les Mêmes, qui parle des filles en disant qu'elles sont toutes les mêmes. Et justement, c'est un morceau qu'ils avaient déjà rappé à l'époque en freestyle sur Radio Nova dans le Dynasty. Et donc plus tard, ils ont eu la chance de l'enregistrer sur disque. Et ça sera la seule trace, en fait, du groupe sur un disque. Après, il y a eu des apparitions en solo, il y a eu des apparitions en feat sur d'autres albums, mais en tout cas, en tant que groupe New Generation MCs, c'est la seule trace qui est, c'est un morceau sur cette compilation Rap Attitude.
Je vais maintenant te donner le son avec New Generation MC qui sont là ce soir pour toi, mon ami.
Et le rythme, le tempo, c'est ce que je donne au micro. Faut que cela soit chaud en quelques jeux de mots. Parce que si tu ressens le rythme, je te donnerai la suite. Pendant que tu t'adonnes toute cette musique sans limite, car moi, GMB, GMG et Master RFC. Nous sommes ici les New Generation MC. Et si tu aimes le rap, une autre force de frappe. Entre dans le rythme, quand le micro, je l'attrape. Prépare tes oreilles à faire bouger ton corps. Même ton cerveau sera atteint, tu en voudras encore. Le rythme tente, c'est déjà de te faire emporter. La musique coule dans tes veines. N'essaie pas de résister. Alors attaque le style, fais bouger la foule et tu verras que l'ambiance sera de plus en plus cool. Nous sommes les MC de la nouvelle génération. Notre seul but c'est de faire bouger toute la nation. Car le hip-hop n'est pas mort, il est bien pire que le rock. Il met de l'ambiance dans les rues même à notre époque. Car l'ambiance vient de toi, le style est le mien. Bouge ton corps dans la foule, toi tu aimes bien. Et ta sueur doit couler sur toi et toutes tes potes. Comme si tu ouvrais un robinet et coulait de la flotte.
Car aux Américains j'ai payé toute ma dette. Car les rimes que je te donne maintenant sont claires et nettes. Et pour ton jet de mon style, un truc du genre nerveux. Pour te prouver et t'affirmer. Je mets rimes sont de feu. Alors d'entrée, je te dis, mets-toi à l'aise. Si tu ne vas pas pour moi, mes rimes, car elles pèsent. Tant de rappeurs me disent mes rimes et ma présence. L'autre les approuve sans façon et donne de l'ambiance. Car le brasier qui me consomme en fait rougir plus d'un. Ceux qui suivent mon tempo et ceux qui m'aiment bien. Mes rimes sont là pour te faire plaisir, pour te faire délirer, pour te faire dire oh yeah.
Oh yeah. Oh yeah. Oh
Dans le mouvement authentique du 92 auquel participaient les New Generation MC qu'on vient d'entendre dans un freestyle sur Radio Nova, il y avait un certain Sully B. Sully, c'était le patron de la sélection pour savoir qui pouvait entrer ou non dans le collectif. Et certains noms connus se sont fait fouler, comme Passy et Stomy Bugsy du ministère Hammer. Bref, il y avait du level et il va émerger de toute cette effervescence artistique un groupe, les Little MCs, comme tous les autres dont il est question cette semaine. Un album sorti en 92, Les Vrais, c'est son nom. Et puis, c'est tout. On va écouter un des trois membres des Little, Sully B. Il était interviewé par Sher et Musul de Get Busy. C'était en novembre 2020 où il revenait notamment sur l'aventure Little. C'est parti. Et on écoutera à la suite de ces deux extraits des morceaux des Little. Ressent le son et je ne vois que moi. Get busy now. Pour me faire passer mon test de rodage. Pourtant ces policiers ont prêté serment
sur la Bible ou sur le Coran. Je ne comprends pas. Et comment on en arrive au Little?
On en arrive au Little ben, à travers le rap. Et juste après notre première visite au mouvement authentique en fait. On est arrivé au mouvement authentique. J'étais encore breaker. Et à un moment, il n'y avait personne dans le studio. J'ai pris le micro et j'ai balancé les beats avec toutes les boîtes à rythme qui étaient synchronisées. Il n'y avait personne, donc j'ai rappé. Et les mecs sont arrivés, je pense qu'ils étaient allés boire un verre. Ils sont arrivés, ils m'ont vu rapper. Et on dit, vas-y, continue. Et donc j'ai continué. Et de là, je me suis dit, ah, c'est cool, bon, ils apprécient ce que je fais. Et en rentrant sur le chemin du retour, eh ben, je me suis dit, tiens, ben, il me faut un nom. Quoi. Et les Little, comme à la base, quand j'étais plus jeune, je m'appelais Little B, genre ça voulait dire petit breaker, et qu'on était les plus jeunes dans le mouvement authentique, ben, je me suis dit, bon, on va s'appeler Little MC. Quoi. C'était tout pourri, mais...
Il y a une spécificité voilà. Au Little, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait les rappeurs, enfin les groupes de rap avaient leur DJ, beatmaker et les rappeurs, et toi, tu faisais les deux en fait. Tu étais beatmaker et rappeur.
Ouais, ben je l'ai fait par nécessité en fait, parce que j'avais pas le choix. C'est pas spécialement ce que je voulais faire.
De rapper ou de faire des beats ?
Non, faire des beats. Je l'ai fait parce qu'à un moment, j'en avais marre d'être dépendant des autres et. Et donc, j'ai appris à utiliser les synthés. Et, voilà, quoi, j'ai dû me débrouiller. Quoi.
Mais tu as investi tout de suite là-dedans, je veux dire, de l'argent?
Non, en fait, c'était le mouvement authentique avait un synthé, un Ansonic. C'était un Ansonic, je crois. C'était un sampleur. C'était les premiers sampleurs. En tout cas, pour moi, c'était le premier sampleur que je voyais. On l'avait acheté collectivement. Enfin, c'est l'association qui l'avait acheté. Et ils se le passaient entre eux, et à un moment...
Avec l'argent des contribuables.
Voilà. Et donc, à un moment, je me suis dit, bon, on est les plus jeunes, mais j'aimerais bien apprendre à l'utiliser, parce qu'à chaque fois, j'étais obligé de quémander, ouais, est-ce que ce week-end, tu fais quelque chose, j'aimerais bien faire un beat, machin et tout. Donc, à un moment, j'ai dit, bon, on fait partie de l'association, nous aussi. On a le droit de savoir l'utiliser, on a le droit d'apprendre à l'utiliser, même si on était les plus jeunes. Et donc, on l'a emmené, un jour, on l'a emmené au quartier, à Vitry.
Et il n'est jamais revenu.
Et si, il est revenu, mais ça y est, j'ai appris à m'en servir et j'ai commencé à faire mes beats, à, voilà quoi, tout seul.
Alors, comment ça se passe parce que vous avez fait partie de ces groupes qui ont été signés sur une major.
Ouais.
Comment ça s'est passé, le cheminement, jusqu'à aller à la major?
On a commencé, je me rappelle, on avait joué au Bobino, aux soirées Zoupsi, et on a été repéré par Jacques Sanjouin, qui ensuite nous a suivis, je crois. On a fait la première partie de Big Daddy Kane, et il est venu nous voir.
C'est de là que vous vous êtes dit qu'il faut mettre des costards sur scène.
Et non, bien avant. On se l'est dit à partir de Big Daddy Kane, justement. On était fans de Big Daddy Kane. On trouvait que c'était classe, quoi. Et que c'était différent. Plutôt de monter, on était tous les jours au quartier, on avait des survêtements tous les jours. Donc là, pour faire de la scène, faut, tu vois, faut, faut être quelqu'un d'autre. Donc on s'est dit, on va mettre des costards. C'est vrai, je me rappelle même que moi, j'ai pas de costard du tout. Donc on prenait les costards. On avait pris un jour le costard de, du daron de Ronald. Tu vois, c'était n'importe quoi. Tu vois, on, voilà. Et on est monté comme ça sur scène. Jacques Sanjoin nous a repérés. Et il nous a proposé un deal, quoi. On faisait partie des, peut-être des 5 premiers à avoir un deal dans une maison de disques. Et comme on était jeunes, on voyait pas vraiment ce que ça pouvait nous apporter, quoi. Parce que on faisait surtout de la musique pour nous, pour le hip-hop, pour le hip-hop, en fait. Donc faire un disque, on voyait pas vraiment le truc, l'enjeu que ça avait surtout. C'est-à-dire que une fois que tu fais ton disque, tu dois vendre. Nous, on s'en foutait. C'était faire un disque, avoir notre tête sur un scud, et que les mecs du quartier, même les gens du hip-hop, à l'époque, du mouvement, se disent « Ah, voilà !» On était limité à ça. C'était juste faire un disque pour le mouvement, c'est tout.
Oh, bonsoir. Merci. Woo! Merci d'être venu si nombreux écouter ce disque ce soir. Et oui, ce soir, c'est un vinyle assez différent des autres, de par ses lyrics, ses vérités, son style underground, et surtout par son délire. Attention, vous les attendiez depuis longtemps, c'est du rap français, c'est des vrais, pas des faux, c'est nouveau, c'est tout chaud. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir DJ Sec, RL et Sully, les Little. Ouh, aïe.
Dont une méthode plus difficile. Donc je décide de m'engager dans le sujet. RL, es-tu prêt?
Parfait.
Ok, j'y vais. J'ai moyen d'augmenter par degré mes connaissances, puis d'élever peu à peu mon niveau vers la puissance. Ainsi tout le discours de Sully MC fort. Je veux te voir remettre ton corps. Ne regarde pas ton voisin mais plutôt ma prestation. Et ressens le son.
Revient plus fort qu'avant, yeah. Étant principalement les plus grands dès à présent. Je m'aperçois que beaucoup de MC bidons nous pompent pas.
Toutefois RLMC il peut se faire que tu te trompes.
Oh non je ne pense pas, quoi qu'il en soit nous sommes là. De plus les Little ne font jamais de faux pas. Oui nous sommes pro, remarquez notre show. Ressent le son qui tourne,
puis vois notre niveau.
Voici un produit underground, subtil. Difficile de faire mieux, voyez-vous nous sommes tranquilles. Nous ne portons pas attention à toute la concurrence.
Tous les imitateurs auprès de nous n'ont aucune chance.
Donc suivez mon trajet, les Little font des progrès. Je conduis votre esprit dans plusieurs voies désormais, yeah. Reste derrière mes rimes, derrière ma démonstration,
yeah. Et
ressens le son.
Et ressens le son.
Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son.
Bien. Je m'introduis sur la piste, yeah. Observez la manière dont opère un spécialiste, yeah. Car mes phrases reflètent entièrement la pensée de l'auditeur.
Voyez-vous même, yeah. Nous sommes des pros et non des amateurs.
Nous de mon trône, je renvoie les bidons au point de départ. Compare mon style à la plupart de ceux qui sont en retard. Le rap français est bien loin, donc je détiens enfin le moyen d'étonner les médias parisiens. Vous en êtes capables?
Nous en sommes capables.
Les Little MC à présent sont intouchables. Donc regarde-moi, écoute-moi, reçois le son qui te va. Car les Little sont à la mode et tu le vois. Lui, c'est RLMC, c'est mon pain. Pas d'alcool, c'est avec le rap que je trinque. Ça c'est mon opinion personnelle, c'est pro.
Ah bon,
car je ressens le son.
Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son. Et ressens le son.
Donc c'est des mecs en costard qui n'étaient pas en costard.
Bah si, on était un peu en costard des fois.
Quel regard t'as quand tu le...
Sur le clip, lorsque je vois le clip, ça me fait...
C'est l'époque, voilà.
Mmh. C'est l'époque, je trouve ça légèrement ridicule. Mais c'est l'époque. Après, j'ai vu d'autres images où je me trouve vraiment, où je trouve que c'est.
Mais sur le morceau en lui-même, le disque, cet album.
Sur le disque, je trouve que c'était bien produit, quoi. C'était bien produit. Je sais pas. J'ai pas vraiment de recul, quoi.
L'album Les Vrais, en tout cas, c'était un des albums de rap français. Je trouvais les mieux réalisés, en tout cas, les mieux maîtrisés dans la réalisation au niveau du son.
C'est ce qu'on voulait.
Parce que tu disais que vous aviez été un des premiers à avoir un deal avec les maisons de disques et les premiers groupes, notamment c'est le cas. Bon, pas pour IAM parce qu'ils étaient déjà dans une autre galaxie, mais pour NTM ou Assassin qui regrettaient justement que les ingénieurs du son ne savaient pas faire sonner le rap. Et ils ont été très déçus de ce qu'ils ont eu après, quoi.
Ah ouais, c'était. Nous, on avait travaillé avec un Anglais, donc déjà, on se rapprochait un peu de ce qu'on voulait, mais les séances de studio, elles étaient vraiment dingues, quoi. C'était une bataille toujours avec le producteur, avec l'ingénieur du son, parce qu'il comprenait pas cette musique, il comprenait rien du tout, et c'était vraiment, vraiment...
Le morceau qu'on s'est entendu juste avant, c'était « Ressens le son ».
Ouais.
Avec un super featuring de Manu Dibango.
Ouais, Manu Dibango. Ouais. Qui repose en paix. Ouais, ouais, bien sûr. C'était. Juste ça, c'était. Bon, déjà, le mec était incroyable. Il nous a appris beaucoup de choses déjà dans le studio.
Comment ça se passe justement quand on est un groupe débutant comme ça, pour avoir Manu Dibango qui était quand même déjà une sommité?
Ben, c'était l'idée. Ça venait pas de nous, c'était une très bonne idée. C'était l'idée de je crois que c'était l'idée de notre manager, Jida, ou peut-être du producteur. Et ils nous ont parlé de Manu Dibango, qui. Nous, on était branchés uniquement rap, donc Manu Dibango, c'était une sommité. C'est vrai, on le connaissait, mais. Mais on se disait, on n'était pas sur les genoux, mais on s'est dit quand même que qu'est-ce qu'il allait nous apporter, quoi. Et finalement, on a vraiment kiffé, quoi. Tu vois, il a apporté au titre, il a apporté toute la dimension au titre, en fait. On entend que ça, quoi. On entend le sax, il y est tout le long et c'était...
Alors justement, quand il parlait des autres groupes et leurs expériences, c'est vrai que les Littles, ça aurait pu être la quatrième roue du carrosse, parce que les groupes qui étaient un peu... vraiment qui sortaient du lot à l'époque, c'était NTM, IAM, Assassin. Et logiquement, le quatrième, c'était vous.
Logiquement, oui.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, de fait, vous avez été peut-être dépassé par Solar, finalement. Après, il y a Alliance Ethnique qui est arrivée... surtout grâce à leurs prestations scéniques, qui sont apparus, eux, comme le quatrième outsider, quoi, finalement, sur une vibe qui était un peu la vôtre, à part le côté DJ super machin, mais qui avait cette vase
un peu plus festif, quand même.
Un peu plus festif. Ouais. Et j'ai l'impression que pour vous, il y a eu un rendez-vous manqué, quoi.
C'est vrai. Je pense que c'est un rendez-vous auquel on n'a pas été réellement convié, quoi. Et je crois que ce qu'on faisait avec du recul, c'était trop... tu vois, on n'avait pas d'accroche marketing. Mmh. On était juste un groupe de rap, hip-hop, avec des textes qui concernent seulement les mecs qui sont dans le hip-hop, seulement les mecs qui vivent dans des cités. Il n'y avait pas d'accroche. NTM, c'était le groupe un peu du Nord qui parle à la jeunesse. Assassin, c'était le groupe politique. IAM, c'était le groupe de Marseille. Nous, on était...
quoi? C'était un déficit d'image?
Je pense que c'était un déficit d'image. Et je crois aussi qu'on n'avait pas un discours populaire. On avait un discours très mégalo, très enfermé sur nous-mêmes, avec on avait notre propre langage. Je crois que c'est lorsqu'on fait du à l'époque, en tout cas, lorsqu'on faisait du hip-hop pour les b-boys, tu touchais pas tout le monde, quoi. Il y avait pas c'était
il y avait un déficit d'image.
Avec le recul, il y a eu de la déception, de l'amertume à ce moment-là?
Pas du tout. Pas du tout, je te promets. Ça, on m'a déjà posé cette question. Et pas du tout. Ça a été... c'est comme si ça devait se faire, quoi, en fait. Et surtout, lorsqu'on a changé de nom, pour te dire, comme on est vraiment nul en marketing...
Ouais, ça, j'ai pas compris.
Tu vois, on a changé de nom parce qu'on avait envie de changer de nom. Parce qu'on trouvait que c'était... que Dalloz, ça faisait bien, que ça, c'était plus sérieux, plus un peu moins...
Puis t'en avais marre d'entendre, ça y est, les petits sont devenus
grands.
Oui,
les petits, tout ça, voilà, là, c'était... donc, je crois qu'on faisait trop... on était trop immatures.
Les petits sont devenus des salauds, c'était vachement bien.
Non, mais pour en revenir à l'album Les Vrais, en tout cas, il était plus varié au niveau de la production que ce qui sortait à l'époque. Assassin était sur une vague ouais. Très Bomb Squad, très rapide. NTM aussi, mais avec un petit côté plus soul. Alors que les prods des Vrais, on avait des trucs soul,
oui,
des trucs jazz funk. C'était beaucoup plus varié. Ouais. Ouais.
Donc c'est aussi, tu vois, au niveau du marketing, c'est pas très cohérent. Parce qu'on faisait de la musique qu'on voulait, quoi.
Et Dalloz, il a été fait cet album un jour ?
On l'a fait, il a été maquetté, on l'a ramené à la maison de disques. La maison de disques nous a dit « faut changer ça, faut changer ça, faut changer ça, non, pas ce titre-là ». On a dit « non, on ne veut pas ». Et on dit « ben alors pas de disque ». On a dit « ok ».
Et c'est ça qui a causé la fin du groupe ?
Voilà.
C'est l'heure, après l'heure, n'est plus l'heure, Little MC.
Oh yeah, yeah.
Petit détail, mais grand espoir.
Oh yeah, spécial guest, King David.
Les Little, je ne vois que moi, c'était les débuts du rap sur CD, ça n'a pas très bien vieilli, je vous l'accorde comme tout le reste d'ailleurs, de ces productions de ces années-là, mais c'est là qu'on voit tout le chemin parcouru par le hip-hop depuis 30 ans, et encore plus depuis 40 ans, puisque c'était l'objet de cette série d'émissions. Le dernier à passer cette semaine sera une dernière, c'est la première rappeuse à être enregistrée sur CD. Elle aussi figure sur la compil Rap Attitude. Elle aussi faisait partie du mouvement authentique avec les Little, les New Generation MC. Elle a fait un album comme les autres avec une pochette bien pourrie, une tentative de comeback un peu plus tard dans les années 90 qui capotera. Et puis c'est tout, elle rappe encore puisqu'on trouve des choses récentes sur le net. Mais ça casse pas des cacahuètes. On va écouter Driver, encore lui, nous parler de cette pionnière Salia dont on salue aujourd'hui l'importance qu'elle a eue, et puis on écoutera ensuite le morceau M.A. Posse, M.A. comme mouvement authentique. C'était À la recherche du groove perdu pour ce 9e épisode consacré à l'histoire du hip-hop en France. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite. Le podcast, vous le trouvez comme d'hab sur le site www.rdwa.fr à la rubrique émission musicale. Mais tout de suite, Driver à propos de Salia. À la semaine prochaine, ciao.
Donc on va l'écouter juste après, mais avant ça, j'aimerais qu'on parle, parce que c'est la même période, de la première rappeuse en France à avoir sorti un disque, un album, qui s'appelle Salia, qui est une rappeuse originaire de Bagneux, 92 aussi, Faut savoir qu'à l'époque, là on parle de la même époque que les New Generation MC, il y a trois filles qui rappent en ce moment-là. Il y a une fille qui s'appelle Destinée, il y a une fille qui s'appelle Belove et il y a Salia. Salia, c'est la première à avoir un deal et sortir son album. Elle apparaît sur la même compilation Rap Attitude que les New Generation MC. Elle a un morceau qui s'appelle Enfant du Ghetto. Et son morceau fait du bruit. Et du coup, elle a le droit de sortir un album chez Virgin. Virgin qui avait distribué la compilation Rap Attitude. Donc, ils ont gardé certains artistes de cette compilation disant ces gens-là méritent des solos et tout. Et Salia, elle en faisait partie. Elle a sorti son premier album qui s'appelle Unique. Ensuite, plus tard, elle sortira un autre album qui s'appelle Résolument Féminin. Et faut savoir que elle, étant de Bagneux, Châtillon et Bagneux, c'est vraiment à côté. Elle travaillait avec les New Generation MCs, donc je sais que RMC du groupe New Generation MCs a beaucoup bossé sur les deux projets de Salia. Donc voilà, il y a un feat, il y a un morceau qui s'appelle le M-Up aussi, très important aussi. C'est une connexion entre des gens de Châtillon, Bagneux et Vitry-sur-Seine, qui était l'autre pôle du rap français à cette époque-là. À Vitry, il y avait des gens comme les Little MC, il y avait EGM, il y avait Timide et Sans Complexe, tout ça. Et en fait, ils ont créé un mouvement qui s'appelait le Mouvement Authentique, où il y avait donc un mix de gens de Vitry et des gens de Châtillon et Bagneux, donc 92-94. Et par exemple, sur le premier album de Salia, il y a un morceau qui s'appelle le M-Up aussi, où il y a quasiment tous les membres du Mouvement Authentique. Et très gros morceau, c'est un truc que j'écoutais beaucoup quand j'étais jeune. En tout cas, voilà, Salia, très importante, la première rappeuse. Aujourd'hui, il y a eu plein d'autres rappeuses qui sont sorties. Sachez que elle a pavé la route. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Tout comme les New Generation MC, c'est important de rendre hommage à ces gens qui étaient là tout au début, parce que sans eux, on ferait peut-être tous du yaourt.
Les meilleurs, tes favoris, des tweets au MIC. Voici le M-Up aussi, le feeling, l'ambiance sensibilise son esprit. Le groupe du M-A attaque, décape, constate, tu vois. Le pouvoir des rimes donne de la voix, fais-le comme moi. Si tu le peux, suis la bonne direction. Le M-Up aussi donne le ton.
Yeah. Si le SU s'est introduit, c'est pour faire part du niveau de son produit. Je me promets de les appliquer correctement, je ne fais aucun sentiment, le rap est mon élément.
Pour le Sud, le M-Up aussi redéfinit l'attitude. La positivité mène à la certitude. Le choix définitif est du plus instructif. Oh yeah.
Je détiens le